Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'apérophonie. Aujourd'hui, on est le 19 février et certains ou certaines d'entre vous le savent déjà peut-être, mais c'est la journée internationale des baleines. Et qui dit baleine résonne pour moi en tout cas grand bleu. Le grand bleu de ce mammifère imposant, le grand bleu de l'océan, le grand bleu de la mer, le grand bleu du ciel qui se confond parfois avec le grand bleu comme ce film que j'ai vu petite. Le grand bleu, quoi. Et du coup, pour cette journée internationale des baleines, j'ai eu envie qu'on parle de cet endroit-là. Qu'on parle des coraux, qu'on parle des poissons, des falaises, des plongées et de tout ce qui peuple cet univers mystique et fascinant aux sonorités tellement singulières. Et puis en remontant à la surface, je me suis dit, il existe une autre mer, moins belle et certainement pour beaucoup plus lointaine et plus cachée. Une mer dont on ne parle pas, celle aux mille visages, entassée sur des bateaux. Alors aujourd'hui, pour cette journée internationale de la baleine, on va parler mammifères, nous aussi. Seulement, ils ne sont pas marins. Et pourtant, ils peuplent les mers. C'est à travers un entretien signé radioparleur qu'Antonin Richard, ex-sauveteur en Méditerranée centrale, nous parle de son expérience, de ses 4 ans qu'il a passés en mer, et de ses questionnements autour de la lutte et de la politique migratoire. De ses instants en mer, il en sort d'ailleurs un livre, intitulé « Ce matin, la mer est calme », dont il va nous parler aussi durant cet entretien. Un récit qu'il dit, dédié à tous les naufragés ensevelis dans le linceul des flots. Un entretien réalisé par Pierre-Louis Collin pour Radio Parleur. Bonne écoute sur Campus Grenoble 90.8.
Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
De lutte que j'ai, c'est pendant la loi travail, c'était une manif à Lille où en fin de manif, c'était parti en manif sauvage vers le centre-ville et on était arrivé sur la grande place de Lille et que en fait il y a un cordon de CRS qui s'est amené et que je sais plus exactement par quel mouvement, mais en fait il s'est trouvé que c'est le cordon de CRS qui s'est fait encercler par les gens qui étaient partis en manif sauvage et que les keufs avaient dû négocier pour pouvoir sortir de l'encerclement et de la nasse dans laquelle ils s'étaient fait prendre. Et du coup, je trouve qu'en ces moments particuliers là où on reparle à fond de violences policières, où c'est assez trash ce qui se passe par rapport à ces questions-là, ouais, ça me fait du bien de repenser à ce souvenir où en tout cas, c'est les flics qui ont dû négocier pour pouvoir se barrer. Et du coup, je me dis que, bon, quelque part, y a moyen des fois de renverser les choses. Et des fois, on peut arriver à avoir des petites victoires, mais peut-être qui peuvent donner du courage pour la suite, quoi. Voilà.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons un invité décidé à se battre contre les flots et les frontières. Face aux politiques fascisantes qui repoussent chaque année au large des côtes de l'Europe celles et ceux qui fuient la guerre et la misère, notre invité est de celles et ceux qui ont décidé d'agir face aux conséquences tragiques de ces politiques. La vingtaine passée, il débarque en 2016 sur l'île grecque de Lesbos via l'ONG Greenpeace. Il embarque ensuite au large des côtes libyennes sur plusieurs navires comme le Sea-Watch ou l'Aquarius. En 2019, il prend la mer cette fois avec l'équipage de l'Ocean Viking.
Medicine. Scabies, not serious. It's okay.
Nous avons 606 personnes à bord. Bonjour. Prends un thé, un thé. Sabah Juan Exed. Sabah Exed. Des biscuits pour toi et un pain. Mafi Calabouche. Calabouche is the word for kidnapping in Libya. Because most of the migrants have been kidnapped.
Antonin Richard, vous publiez cette année aux éditions du Zetac ce livre « Ce matin, la mer est calme », livre qui revient sur votre expérience de marin sauveteur en Méditerranée. Tout d'abord, Antonin Richard, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question qui pourra paraître anodine, pourquoi avoir écrit ce livre ?
Bah parce que j'ai l'impression, à la fois, enfin, il y avait plusieurs envies, mais il y avait à la fois l'envie de raconter ce qui se passe du point de vue de quelqu'un qui vit les événements, pas forcément dans la position d'une personne qui migre, ni dans une position de journaliste, mais dans la position de quelqu'un qui agit et qui fait quelque chose. Et ça me paraissait intéressant. Et l'autre raison, peut-être, je crois que c'est en tout cas modestement essayer de participer à réouvrir la question des frontières en France, à ce que ça reprenne une place, à ce que la Méditerranée et ce qui s'y passe puissent peut-être reprendre un petit peu une place dans les luttes en France. Et voilà, qu'on puisse essayer de motiver du monde autour de ces questions-là et qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Voilà.
Vous amorcez ce livre en citant un passage d'Hommage à la Catalogne de George Orwell. Dans ce passage, Orwell appelle le lecteur à se méfier de la partialité de ses propos, comme des propos de quiconque. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de débuter votre livre de cette manière ?
C'est une bonne question. En fait, on a trouvé... Alors, je ne me compare pas à Orwell dans le sens où je n'ai pas fait la guerre d'Espagne et je pense que les événements auxquels j'étais confronté étaient loin de ceux de la guerre d'Espagne et que le parallèle historique n'est pas forcément juste. Par contre, je pense qu'il y a un vrai parallèle dans la position dans laquelle Orwell a peut-être écrit Hommage à la Catalogne et la mienne, dans le sens où en fait c'est quelqu'un qui depuis son pays a vu des événements se passer et a décidé non seulement qu'il avait envie d'y participer et aussi qu'il fallait y participer. Et je crois que ça, c'est peut-être, je dirais modestement, ce que je peux partager avec lui et son bouquin Hommage à la Catalogne, c'est que moi aussi j'ai eu envie de participer à ce qui se passait, en tout cas pas laisser les bras croisés, rester les bras croisés et plutôt avoir envie d'y aller et en même temps trouver du sens dans le fait d'y aller. Et voilà, je crois que c'est un peu le même parallèle et aussi sur le point de vue un peu partial, parce que je suis pas impartial et je suis pas objectif, mais voilà, je pense que ce que je dis je pense que on n'est jamais, enfin voilà, c'est ce que dit Orwell quoi, on n'est jamais objectif et voilà, assumer ce point de vue d'une personne qui raconte en même temps qu'elle participe.
Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça se passe une campagne de sauvetage ? C'est quoi votre quotidien à bord du navire ?
Du coup, je vais parler plus récemment. Donc, comment ça se passe une campagne ? Déjà, il y a le départ du port. Du port d'escale où on fait le plein de vivres, le plein de carburant, on change les équipes, où les nouvelles équipes prennent le relais sur les anciennes, etc. Et donc il y a cette partie-là qui se passe à quai, en général en Europe. Donc la plupart du temps, ça a été en Sicile parce que c'était une zone, enfin c'était l'île relativement proche où c'était possible d'accoster. Ça a été aussi un peu à Malte, parfois jusque Marseille. Et donc ce temps-là d'escale technique qui sert à préparer le bateau pour aller en mer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le transit vers la zone de sauvetage. Donc c'est en général, selon l'endroit où on part, entre 4 et 2 jours de navigation pour s'approcher au large des côtes libyennes. Et en général, sur ce temps de transit, on essaie d'organiser des entraînements, des simulations, pouvoir préparer les équipes aux procédures et puis aussi se réentraîner. Après la période de transit, une fois qu'on est dans la zone, et en fait on est en veille, on est de garde. C'est comme si on était entre guillemets dans un hôpital ou dans une caserne de pompiers, puis qu'on attendait une intervention. Et donc dans ces cas-là, on cherche à la fois les bateaux par une veille visuelle, du coup avec des jumelles, regarder le large, regarder la mer, et aussi avec les radars, essayer de voir s'il y a des traces sans le radar qui donnent une idée de s'il y a des bateaux qui sont autour de nous ou pas. Et après, il y a aussi Alarm Phone, qui est une autre ONG qui, elle, s'occupe essentiellement de faire du relais d'appel de détresse et qui donc, en fait, depuis l'Europe ou l'Afrique du Nord, relaye des appels de détresse qu'elle peut recevoir via ses téléphones et essaie du coup de transmettre des positions GPS de navires qui seraient en détresse à proximité de nous. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a ces informations-là, on a tout ce qui concerne le sauvetage en lui-même, du coup récupérer les gens qui sont dans des embarcations en détresse, donc soit qui sont des fois parfois en route, qui font route mais qui sont sur des embarcations toutes pourries, ou alors des fois qui sont déjà en train de couler ou alors qui sont à la dérive parce qu'ils ont des problèmes moteurs, parce qu'ils n'ont plus de carburant, pour plein de raisons. Voilà. Et après les sauvetages, donc une fois les personnes à bord, on s'occupe des personnes, on leur fait déjà, elles ont entre guillemets un check médical qui permet de voir s'il y a des urgences vitales à traiter, ou si les gens sont dans des états qui leur permettent d'attendre d'être débarqués dans un port sûr, ou alors si elles nécessitent des évacuations sanitaires par hélicoptère plus rapidement. Et puis ensuite s'ensuit une période qui est hyper variable, qui en fait est c'est une période où on attend d'avoir un port sûr qui est assigné au bateau, donc qui permet de débarquer les gens dans un port européen qui soit le plus proche, et d'après les lois maritimes internationales, ça doit être le port sûr le plus proche. Et donc on estime que le port sûr le plus proche, c'est pas la Libye, enfin c'est aucun port de Libye puisque c'est un pays qui est en guerre. Et donc en général, on demande aux autorités italiennes de nous rediriger vers le port sûr le plus proche, ou maltaise, qui en général refuse. Et donc en général, on passe sur un levier politique où il faut que les pays européens s'accordent pour prendre en charge les gens qu'on a recueillis.
Et justement, comment est-ce qu'on se retrouve du jour au lendemain propulsé à Lesbos pour sortir des gens de la Méditerranée ?
C'est une bonne question encore. Comment est-ce qu'on se retrouve là ? Je crois qu'il y a un engagement militant à la base. Alors même si moi ça a commencé par l'écologie, je pense que ça s'est peu à peu ouvert sur d'autres questions, dans les luttes sociales notamment, et sur d'autres thématiques. Mais en tout cas, c'était un sujet auquel les migrations et aussi les exilés qui fuyaient la guerre, je pense que c'était quelque chose auquel j'étais sensible, et aussi la question des frontières européennes et de ce qui s'y passait à leur marge. Et du coup, j'avais envie d'y aller. Et en fait, ça s'est présenté à moi un peu de par mon engagement avec Greenpeace à l'époque. Et ça s'est ouvert. Voilà, ils ont eu, je dirais, l'ouverture d'esprit de s'engager sur quelque chose qu'ils pensaient qu'il y ait du sens, même si ce n'était pas de l'écologie. Et ça s'est fait comme ça. Ils m'ont proposé d'y aller et j'y suis allé.
Et il y a eu un élément déclencheur qui vous a poussé à partir ? Ou c'est vraiment juste on vous a proposé d'y aller et vous avez foncé, quoi ?
J'avais déjà envie d'y aller à la base. C'est sûr que ça me trottait dans la tête et que moi-même, parfois, dans les luttes écologistes, je trouvais un peu des limites parce que j'avais l'impression que ça ne s'ouvrait pas assez à d'autres luttes, notamment les luttes sociales et aussi les luttes contre les frontières. Et du coup, j'ai vu une double occasion, quoi, de mettre à profit un savoir-faire maritime, alors qu'il s'est construit en même temps que j'y étais, mais... Voilà, mettre à profit un peu de savoir-faire maritime avec une lutte qui fait du sens, quoi. Voilà.
Alors du coup, comme je l'ai dit plus tôt, vous avez embarqué à bord de plusieurs navires. Pouvez-vous m'expliquer, en fait, c'est quoi les spécificités de ces bateaux ? C'est quoi qui les différencie, dans le fond ?
Eh bah, bien, donc c'est tous des bateaux d'ONG, ça c'est leur point commun. Du coup, ce qui les différencie, ouais, c'est principalement leur statut. Du coup, il y en a qui sont sous statut de bateau de plaisance, donc avec assez peu de régulation et une grande liberté de mouvement et dans la manière dont on les opère. Et puis d'autres qui sont sous statut commercial, donc de navires marchands. Et donc là, on entre dans un monde avec pas mal de régulations et de normes à respecter. Ensuite, ce qui peut différencier un petit peu les navires entre eux, c'est la manière dont les ONG fonctionnent. Et donc il y a certaines ONG qui maîtrisent de A à Z de tout le fonctionnement du navire, qui ont leur propre équipage sur le navire et qui en même temps assurent la partie médicale et la partie sauvetage. Et il y a d'autres ONG qui fonctionnent avec, par exemple, une entreprise qui va gérer la bonne marche du navire, une équipe médicale et une équipe de sauvetage qui font partie de l'ONG, mais du coup, qui fonctionnent sur une base de... En fait, où ils louent l'usage du navire à une compagnie. Voilà, je dirais que c'est, ça peut être ça. Après, sinon, il n'y a pas fondamentalement de grande différence. Ce qui se passe, ça va être toujours de faire du sauvetage en mer, en Méditerranée centrale, et voilà, d'aller sauver les gens qui sont en détresse là-bas.
Et dans le fond, il n'y a pas une différence politique entre ces bateaux, entre l'Aquarius, le Ocean Viking ou le Sea-Watch ?
Bah, par exemple, entre l'Aquarius et l'Ocean Viking, non, puisque c'est SOS Méditerranée qui avait affrété l'Aquarius puis l'Ocean Viking, donc ça ne changeait pas forcément entre ces deux navires. Par contre, effectivement, entre SOS Méditerranée et Sea-Watch, oui, il y a des différences de fond et il y a un peu des différences de forme. Après, elles poursuivent, en tout cas, sur le terrain, elles poursuivent le même objectif qui est d'essayer de récupérer les gens en détresse. Après, sur le fond, il y a effectivement SOS Méditerranée qui est plus institutionnel et qui garde une ligne qui est très universelle, qui est qu'on ne laisse pas les gens mourir en mer, qui qu'ils soient et où qu'ils soient. Tandis que Sea-Watch, en plus de ce discours universel, met aussi l'accent sur la gestion des frontières en Europe. Et se bat contre les frontières. Je pense qu'il y a un discours politique qui n'est pas forcément présent chez SOS Méditerranée.
Vous, là, ça fait à peu près 4 ans, si je ne me trompe pas, que vous retournez en mer. Qu'est-ce qui vous pousse à y retourner à chaque fois ?
Eh bien, je pense que c'est toujours pareil. C'est l'envie d'y retourner couplée au fait d'y trouver du sens. Et du coup, effectivement, je pense qu'il faut se ménager, il faut pas se griller, je pense que personne qui fait ça n'est surhomme, quoi, n'est invincible. Mais du coup, je pense qu'il y a à la fois un besoin de garder pied avec la terre et ses réalités, et à la fois une envie de retourner en mer, de continuer à se battre et de continuer à sauver les gens.
Hello, salut!
English, français? C'est très important que vous restiez calme. On va vous donner des gilets de sauvetage. Est-ce qu'il y a des gens avec vous qui sont pas en train de respirer?
Écoutez-moi, le bébé avec le maman au papa, ok? Assistance, s'il vous plaît, merci. Okay, let's just pull back and wait till they calm down, then we'll come back. Sans silence, no rescue, okay?
Let's go.
Oh la 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 la.
Okay, it's pretty tight in here. I reckon we got about 130, 140. So we're going to get the women and children off, and then we'll move on to the men.
Faut faire passer les neuf jaquettes à l'arrière.
Is an ineffective border control system. It kills the most weak and allows the strong to live. And for me, that's unacceptable. So using death as a tool to control the flow over a border is something I can't stand.
Le monde est être la police. Le monde est être la police.
Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Qu'il vienne le chercher.
Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
Eh ben, on n'est pas sorti du sable.
Si on peut revenir un petit peu sur les personnes qui sont à bord des navires sur lesquels vous avez été, qui c'est qui fait ces missions ? C'est des marins, des ingénieurs, c'est des gens qui ont des formations en médecine, c'est des gens qui ont des formations particulières, c'est des bénévoles, qui montent à bord ?
Eh ben, ça dépend de quel navire on parle et de quelles organisations. En tout cas, je dirais quand même que on a des équipes médicales qui, elles, en général, sont spécialisées. Donc, on trouve des infirmiers, des docteurs, des gens qui sont dans le médical et qui sont qualifiés pour ça. Qui peuvent parfois le faire bénévolement ou parfois le faire rémunéré. Ça dépend des organisations. Ensuite, sur la partie sauvetage, là, on a des profils plus variés avec des gens soit qui viennent d'ONG qui ont des savoir-faire maritimes comme Greenpeace et Sea Shepherd, par exemple, et qui, du coup, ont acquéri un savoir-faire maritime via ces organisations, ou d'autres gens qui sont issus de la marine marchande et qui ont un parcours, entre guillemets, plus classique, c'est-à-dire d'officier de marine marchande ou de marin à bord de bateaux marchands et qui décident de, voilà, d'utiliser leur, leur expérience dans ce milieu-là pour pouvoir faire du sauvetage.
Et vous la ressentez, vous, quand un gouvernement change ou quand de nouvelles politiques migratoires sont mises en place, le changement, est-ce qu'il y a un changement qui s'opère sur le terrain pour vous ?
Oui, il y a eu clairement un changement. Là, en 4-5 ans, il y a eu un vrai changement. Par exemple... En tout cas, pour la situation en Méditerranée centrale, il y a eu un changement qui a été très net. C'est-à-dire qu'en 2016, les autorités italiennes, via leur centre de recherche et de sauvetage, étaient tout à fait coopérantes avec, avec les ONG. C'est-à-dire qu'elles renvoyaient les appels de détresse, qu'elles avaient, en tout cas lors de leur réunion avec les ONG, elles avaient une position très claire qui était de la survie des gens en détresse en mer. Et petit à petit, notamment avec l'arrivée, enfin avec le passage de Salvini comme ministre de l'Intérieur et puis d'autres événements politiques en Italie, il y a eu clairement un glissement qui s'est opéré vers un désengagement extrême de la part des États, de ces États-là, pour freiner les sauvetages en mer Méditerranée.
C'est quoi votre relation avec les gardes-côtes ou les autorités des différents pays ?
Si on parle des autorités européennes, en fait, ce qui est compliqué, c'est que le sauvetage, c'est pas quelque chose qui s'improvise, et c'est quelque chose qui a été pensé au niveau international, dont des institutions gouvernementales se sont saisies et ont organisé toute une série de mesures, de procédures et de techniques pour répondre au sauvetage en mer. Et en fait, ce qu'on voit ces dernières années, spécifiquement en Méditerranée centrale, c'est que les États se sont désengagés de ce qu'ils sont censés faire dans le cas de naufrages, de naufrages en mer. Et donc, l'action des ONG est clairement là face au désengagement des États. Ce qui fait que le rôle des ONG, en fait, aujourd'hui, se substitue au rôle des États. Et donc, à un moment, c'est peut-être un... Enfin, et du coup, c'est un espèce de double jeu où, en fait, sans cesse, les ONG sont obligées de... Une fois qu'elles ont fait un sauvetage, sont obligées de se rapprocher des autorités européennes pour pouvoir débarquer les gens. Parce que un bateau, ça rentre pas, enfin sauf exception, ça, on peut pas aller débarquer les gens comme on veut, où on veut, etc. Et que ça s'inscrit dans un système qu'on est bon an mal an obligé de suivre, quoi.
Et du coup, c'est quoi les relations que vous entretenez, par exemple, avec les gardes-côtes européens ou du coup plus particulièrement avec les gardes-côtes libyens, vu que le pays est en guerre et que le gouvernement vacille un peu de temps en temps. C'est quoi vos relations avec, par exemple, avec les gardes-côtes libyens ?
Les relations avec les gardes-côtes libyens, moi, c'est, là, on parle sur une période de, en tout cas par rapport au livre, ça s'étend sur une période de 4 ans, donc elles ont évolué, mais en tout cas récemment, ce qu'on peut dire, c'est que a priori, les gardes-côtes libyens essayent au maximum de renvoyer les gens vers la Libye. Donc, ils essaient de, en fait, en général, ils essaient d'arriver avant les ONG sur des naufrages ou sur des bateaux en détresse pour pouvoir les récupérer et les renvoyer en Libye. Du coup, il y a, en tout cas, ces derniers temps, il y a, je dirais, assez peu de relations. En tout cas, moi, mon niveau en mer sur le terrain. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de relation. En tout cas, les Libyens essaient d'intercepter les gens qui fuient la Libye, essaient de les ramener en Libye. Et nous, on essaie de sauver ces gens et de les ramener dans un port sûr le plus proche. voilà, donc il n'y a pas particulièrement de coopération, il peut y avoir des confrontations aussi, mais je dirais que tout le jeu, c'est que on récupère les gens avant que les gardes-côtes libyens ne le fassent.
Bienvenue, tu peux aller t'installer. Tu viens de
Guinée-Bissau.
Guinée-Bissau,
oh, portugais.
Tu as quel âge?
Souri.
Souri, tant.
Ok, bag.
C'est un morceau de bâche entouré de deux morceaux de boudin et consolidé par deux morceaux de bois. Donc c'est beaucoup de morceaux mis ensemble mais qui vont pas très loin. Il n'y a pas assez d'essence, on est quand même sur un ratio de 10 personnes au mètre carré en moyenne. Ils sont pas faits pour flotter plus de 10 à 12 heures.
If you go with 5 knots, it will take 60 hours. I would say that they were going about 4 knots. So it's more or less a sure way to death. And that tells us how desperate people are to flee, because nobody are risking their children's life on a dinghy if it wasn't for this water is actually safer than the country they are fleeing from.
Est-ce qu'il y a un, ça sera peut-être un peu plus personnel comme question, mais est-ce qu'il y a un sauvetage ou une rencontre qui vous a particulièrement marqué?
Tous. Ils m'ont tous marqué, mais non, ils m'ont tous marqué. Je pense que à chaque sauvetage, ça a été des centaines de personnes, des centaines de rencontres. Et je pense que la somme de ces rencontres, elle m'a marqué. Et la diversité des gens que j'ai rencontrés et le partage avec celle-ci, il est marquant de toute façon. Ensuite, forcément, je dirais vraiment tous. Voilà. Je triche un peu.
Est-ce que vous avez gardé contact avec des personnes à qui vous avez pu parler après un sauvetage ou quoi?
Oui, ça a pu se faire. Ouais. J'ai contact parfois. Parfois, j'ai gardé contact. Certains que j'ai revus après en France. D'autres à qui j'ai eu des nouvelles via le téléphone ou voilà, mais j'ai gardé un contact parfois avec certaines personnes. Après ça se fait au feeling et il y a rien de voilà, c'est des fois ça se présente et il y a des échanges et parfois ça se poursuit à terre, ça peut arriver, ouais.
Et il y a un moment dans le livre où vous décrivez un petit peu les changements que vous avez pu constater en termes de, je mets des guillemets, maintien de l'ordre dans les eaux internationales et au large des côtes, sur le fait qu'il y avait de moins en moins de présence humaine et de plus en plus d'hélicoptères ou d'avions, etc., qui survolaient les zones. Et vous n'avez plus forcément de contact humain avec les gens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Ouais, alors en fait, je dirais c'est spécifiquement sur l'Europe. Donc l'Europe était présente en Méditerranée. L'Europe en tant qu'institution était présente en Méditerranée. Via le NAVFORMED, qui est la mission militaire de l'Europe en Méditerranée. Et elle était présente dans cette zone-là avec des bateaux militaires qui avaient diverses missions, mais qui du coup parfois participaient à des sauvetages en mer ou effectuaient des sauvetages en mer. Et donc ensuite, conformément au droit international, les ramenaient dans les ports sûrs les plus proches, donc en Italie ou Malte. Et petit à petit, en fait, l'Europe a fait évoluer cette mission militaire, l'a transformée et donc petit à petit a retiré ses navires, a mis en place d'abord une flotte aérienne, donc des hélicoptères, des avions, pour continuer à faire de la surveillance dans cette zone-là. Mais finalement, moi je dirais très crûment, retirer ses mains de la merde, ça veut dire ne plus être obligé d'intervenir quand il y a des naufrages, puisque un avion, quand il voit un naufrage, il peut éventuellement larguer des canaux de survie s'il en a, ou relayer l'alerte, mais en tout cas, il n'est pas obligé de... Enfin, il peut pas, techniquement, il peut pas récupérer les gens, et donc il n'est pas en tout cas, les pays européens peuvent continuer d'opérer une surveillance dans cette zone-là sans avoir à faire des sauvetages et de ramener des gens qui fuient la Libye en Europe. Donc effectivement, ça a vraiment évolué. Et ça s'est même encore diminué. Je crois, à ma connaissance, il y a peut-être encore des drones qui survolent et des avions. Mais voilà, ils sont de plus en plus rares dans cette zone. Voilà.
Alors, tout autre sujet, mais vous parlez dans le livre de multinationales de l'humanitaire. On sent, en vous lisant, que vous êtes assez critique de la manière dont tout ça se déroule. Est-ce que vous pouvez peut-être expliciter ou nous en dire un petit peu plus sur le rapport que vous avez avec l'humanitaire ?
Ouais. Alors, à la fois, je suis critique et à la fois, je suis mesuré. C'est-à-dire que, en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut faire... Moi, j'ai envie de faire preuve de pragmatisme dans mes engagements et j'ai pas envie de cracher sur des acteurs qui peuvent avoir des... Enfin, voilà, qui apportent un vrai soutien matériel à cette situation-là. Et je pense que c'est un peu le... En tout cas, je vais peut-être un peu me défiler, mais je crois que je pense que... Moi, j'ai envie de porter un discours politique par rapport à l'action que je fais. Et je pense qu'il y a des organisations qui n'ont pas envie de le faire. Je pense qu'il faut profiter des moyens qu'elles mettent en œuvre parce que c'est un vrai, c'est vraiment, je pense, au service des gens. Et en tout cas, ça peut parfois permettre de sauver des vies. Et que ça, j'ai l'impression que dans cette situation, enfin, dans n'importe quelle situation, ça n'a pas de prix. Donc je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre avec les multinationales de l'humanitaire, comme je le dis, et qu'il faut effectivement, enfin, je vais pas remettre en cause leur action. Après, je pense que c'est important de au moins pour soi avoir un sens politique qui va au-delà d'un simple regard humanitaire sur une crise. Je pense que la crise en Méditerranée, elle est pas qu'humanitaire, je pense même qu'elle est d'abord politique, qu'elle est liée à l'Europe et la position politique de l'Europe vis-à-vis à la fois des exilés et des personnes qui migrent, et aussi à l'égard de la Libye et d'une situation même plus générale en Afrique. Mais voilà, je crois que j'ai pas envie. Je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai envie de faire. Je pense que j'ai pas forcément, enfin, je crois que moi j'ai envie de porter un discours qui est politique à l'égard de la situation en Méditerranée et pas se contenter de pleurer sur les morts qu'il peut y avoir et de dire que bah voilà, les gens qui sont en détresse, il faut les sauver. Oui, je pense que les gens en détresse, il faut les sauver, mais il faut aussi faire avancer la situation politique. Il faut que l'Europe elle mette en place, elle prenne en charge la situation méditerranéenne pour éviter qu'il y ait encore des morts, quoi.
Et justement, c'est quoi les solutions qui pourraient être apportées pour qu'il n'y ait plus de personnes qui meurent en fait dans la Méditerranée?
Bah, moi, après, je suis pas non plus politicien, donc je pense que c'est pas à moi de trouver ces réponses-là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que face à ce qu'ils appellent les crises migratoires en Europe, je pense que les politiciens européens, ils ont choisi une réponse qui est sécuritaire avant d'être solidaire et fraternel. Voilà, je pense qu'on en est loin et je sais pas ce serait quoi les solutions à apporter à cette crise-là, mais je pense qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'importe, c'est d'être contre ce qui se passe, de pas accepter qu'il y ait plus de morts en Méditerranée. Maintenant, savoir ce qu'il faudrait faire exactement, j'ai pas de réponse claire à apporter.
Et en revenant un petit peu sur, pas forcément le rapport à l'humanitaire, mais est-ce que vous faites une différence entre votre militantisme et l'humanitaire ?
Bah, je crois que oui, parce que je pense que j'ai une conscience politique et que mes actions, elles sont en accord avec cette conscience politique-là et que je pense que les actes qu'on peut avoir quand on milite, ils ont un sens politique profond et ça, c'est quelque chose de très important. Donc oui, je le dissocie de l'humanitaire. Maintenant, c'est vrai que pour moi, c'est là où je peux accepter ce compromis qui est de dire en fait, je vais là où je peux aller avec les moyens que j'ai et avec ma conscience à moi et participer à quelque chose qui a du sens pour moi et tout en étant avec des organisations qui vont avoir des approches institutionnel, plus humanitaire, quoi.
Vous dites à la fin de l'ouvrage qu'il faut surtout ne pas perdre de vue les rives. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ouais, c'était une manière un peu poétique de dire qu'il faut à la fois pas s'oublier quand on est en mer, toute la vie à terre s'arrête. On oublie tout le reste et on se concentre sur ce qui se passe en mer. Et justement, je pense que c'est un écho un petit peu à ce que tu disais là sur l'humanitaire et le politique. Je pense que pas perdre de vue les rives, ça veut dire que c'est ne pas tomber dans une vision purement de l'urgence où on se dit il faut sauver les gens à tout prix, etc. Moi, je pense que oui, il faut sauver les gens. Et en même temps, il faut porter un discours politique qui soit fort et ferme et offensif vis-à-vis des gens qui prônent le repli sur soi, la xénophobie, la fermeture des frontières, qui cherchent à fermer les frontières.
Et est-ce que vous êtes optimiste ?
Je dirais que je suis pessimiste positif. Je pense que les choses vont pas dans le bon sens et probablement que ça va pas s'arranger et qu'aujourd'hui, clairement, la position de l'Europe, c'est de laisser les gens se noyer en Méditerranée. Mais je pense que c'est pas parce qu'on a une vision réaliste des choses qu'il faut arrêter de se battre et qu'au contraire, c'est se battre qui donne du sens à ce qu'on fait.
Alors on va arriver à la fin de cet entretien. Antonin, merci du coup d'avoir accepté notre invitation. J'ai une dernière question cependant. Nous, on a appris que vous repartiez en mer là dans peu de temps. C'est quoi qui vous attend pour la suite ?
Eh ben, je sais pas, parce que les bateaux sur lesquels je devais repartir subissent ce que j'appelle moi du harcèlement administratif et judiciaire, et donc il y a des procédures qui sont en cours en Italie pour empêcher, en tout cas pour ralentir le départ des bateaux vers la zone de sauvetage. Donc aujourd'hui c'est assez incertain et je sais pas quand est-ce que les bateaux vont repartir. Je pense qu'ils vont repartir, mais je sais pas quand. Et du coup, là, j'attends de savoir si je repars sur un des bateaux de Sea-Watch, a priori. Mais je ne sais pas si ce sera possible avant 2021.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Et voilà, c'était un entretien de Antonin Richard, marin sauveteur en Méditerranée. Un entretien mené par Pierre-Louis Collin pour Radio Parleur. Merci de l'avoir écouté, on espère que ça vous a plu. L'apérophonie aujourd'hui, c'est pas tout à fait terminé car nous accueillons la chronique de Lucas, notre stagiaire qui sera là pour quelques semaines à Radio Campus Grenoble. Aujourd'hui, il vous livre sa première chronique qui parle de racisme et d'humour. Bonne écoute sur Campus Grenoble 90.8 et merci de nous avoir écoutés, c'était l'apérophonie.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas pour Radio Campus 90.8. Aujourd'hui, nous allons parler drôlerie, calembour et mécanique. Nous allons parler des rouages d'un moteur à l'origine d'inégalités sociales. Parce qu'on va pas se mentir, faire des blagues c'est drôle quand même. Mais les mécaniques du racisme et du racisme sont nombreuses. Alors nous allons ouvrir le capot, décortiquer tout ça sans se mettre du cambouis plein les mains. Pour commencer, il nous faut une clé à molette. Et cette clé, ce sont des chiffres. Bon, j'avais pas de chiffres officiels dans ma boîte à outils, donc je suis allé les faire moi-même avec un petit sondage sur une centaine de personnes. 52,5% des votants estiment que l'humour est effectivement un moyen d'émettre des injures racistes de manière éthique en société, car c'est une des fonctions de l'humour. Mais en même temps, 84,7% de ces mêmes votants estiment que l'humour peut être un outil pour lutter contre le racisme. Et là du coup, il n'y a pas de blague, mais on avance un petit peu et vous allez comprendre. Bon, on est tous au courant que le racisme existe, que c'est pas gentil, que c'est pas gentil d'être méchant. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est qu'est-ce qui répand ce racisme ? Quel rouage fait fonctionner cette machine infernale de la méchanceté ? C'est sur cette inconscience des actes que se base un subtil racisme dit ordinaire. Le racisme de tous les jours, quoi, que l'on voit mais que l'on regarde pas. Ce dernier se caractérise non pas par des actions racistes répréhensibles, mais par un jeu inconscient de préférence du blanc social, ou en l'occurrence du français comme modèle de référence en tout état de cause. Et là vous commencez à comprendre que les problèmes de joint de culassé de bougie arrivent à grands pas. Cela entraîne donc une banalisation de l'action raciste, car en fond on le fait tous sans s'en rendre compte. Et de cette combustion inconsciente découle le fameux sentiment collectif « Si tout le monde l'est, c'est pas si grave, non ?» On a tous ce fameux pote, un peu basané, d'une autre origine, de couleur, qui fait des conneries, c'est peut-être des fois le voleur de la bande, celui qui fait des blagues, et qu'on aime charrier, parce que c'est notre poteau, on l'aime. Mais au fond, il est différent. Sauf que cela provoque un rejet de l'autre, de l'inconnu au profit du connu, de notre semblable. Quand bien même nous nous disons non racistes. Et c'est là que l'humour prend sa place, comme une pièce maîtresse de l'inconscient collectif raciste. Ce dernier ne démontrait-il pas une présence systémique d'un racisme, si ce n'est une discrimination exercée par tous ? On ne le remarque pas au premier abord. Et maintenant que je vous l'ai dit, cela fait son chemin dans votre esprit. Celui-ci est d'abord considéré comme un facteur de sociabilisation, de détente et d'amusement, non ? L'humour, c'est fait pour se faire plaisir, pour passer un bon moment. Mais dans son paroxysme, il devient une arme permettant d'attaquer quelqu'un, ou tout un groupe, tout en se défendant et en se dédouanant des injures via les procédés humoristiques. Mais vous allez me dire, on est en France quand même, la liberté d'expression, on a le droit de dire ce qu'on veut et ce qu'on pense. Eh bien, à l'image de notre oncle qui, avec 6 grammes par litre de sang, s'amuse à donner son avis sur l'immigration, il se plaindra toujours qu'il ne puisse plus rien dire. Ce principe de tourner en dérision une injure sert tous les intérêts. Il permet de discriminer en toute impunité. Mais par contre, dessert l'idée d'une justice qui peut prôner l'idéologie de rire de tout et avec tout le monde pour plus d'égalité et d'intégration. Car justement, à quel degré peut-on juger le caractère raciste ou insultant d'un calembour ? Personne ne le peut. Alors que justement, le but d'une blague est de tourner en dérision une différence pour rendre quelque chose de vu comme négatif, positif par le rire. Et c'est là qu'un problème se pose. Peut-on rire de tout et de tous avec tout le monde ? C'est la fameuse grande question. Et la réponse qui me plaît le plus, c'est celle de l'humoriste Kairon, qui dit « Vous avez le droit de choisir ce qui vous fait rire, pas ce qui est drôle. » Je trouve qu'elle résume assez bien la situation. Dès lors, on observe que ces rouages de l'humour sont des lames à double tranchant. Rire d'une minorité peut être à la fois un signe d'intégration sociale de celle-ci, comme un signe de dénigration. Mais où se place la limite, vous allez me dire ? Eh bien, c'est à nous de la placer, en fonction du contexte et de celui qui est à l'origine de la blague ou de l'injure. Ce sont nous, ce sont notre éthique qui peuvent mettre ces barrières. L'humour est un outil. Par conséquent, celui-ci est régi par des normes et des valeurs éthiques. Mais il ne peut n'être en aucun cas une justification. L'humour n'est pas une excuse. Son utilisation dépend de son utilisateur, Exprimé ainsi, c'est super bateau, vous allez me dire, vous avez raison. Mais si l'on prend les professionnels de l'humour, qui rédigent un sketch dans un contexte de travail visant à faire rire un auditoire connu et acquis, et à contrario une personne lambda qui fait une blague dans un bar ou pour faire rire ses collègues, peu importe la volonté du blagueur, l'un sait dans quel cadre il le fait, chaque mot est réfléchi, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Bon, on n'est pas Einstein, mais il est temps de relativiser. Il ne faut pas voir en l'humour une immunité, une cape d'invisibilité, derrière laquelle le racisme peut s'exprimer en toute impunité. Il faut mettre en perspective les tenants et les aboutissants d'une blague à caractère raciste et qui est faite sur un groupe dominé. Car justement, une blague à caractère raciste, une plaisanterie, ne signifie pas forcément qu'elle l'est. Il ne faut pas s'arrêter de rire pour autant non plus. Bien au contraire, il faut peut-être tout simplement être modéré dans l'humour et rester respectueux sans pour autant se censurer. Il ne faut pas rentrer non plus dans le vice de la liberté d'expression. Elle aussi à double tranchant. Mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas de rire. Riez aux éclats, à en pleurer. Mais ayez conscience de ce qui vous fait rire et ce qu'induit ce rire. Bon, on peut refermer le capot, ranger les outils, s'essuyer les mains sur la salopette bleue et allumer la bête. Direction la détente, la bonne humeur, sans sulfite ni discrimination.
Et c'était quoi ?
L'apérophonie !
Ouais, mais c'était quoi ?
L'apérophonie !
C'est quoi ?
L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !